Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Philippe Sobe est né à Toulon en 1974. Il abandonne, au grand dam de sa famille à laquelle il est très attaché, son poste d'électricien à l'arsenal de Toulon et décide d'effectuer un voyage sans se donner de date de retour. Quelques jours avant son départ, il décroche une bourse d'Efijon, puis s'engage dans un périple en solitaire de 2 années autour de la planète. À la recherche d'une adaptation perpétuelle et d'une vie proche de la nature, il alterne des modes de progression simples. Marche sur plus de 6000 km à travers 14 états des États-Unis, canoë sur 5000 km au Canada, marche hivernale sur 2000 km en Alaska. Dans le cadre de ce voyage, il côtoie les SDF du Mississippi, partage les chants des Indiens Sioux, s'initie à l'art de la pêche et de la chasse avec les Inuits. Il se découvre une passion pour l'écriture. Rencontré sur le stand de la maison d'édition Transboréal, Philippe vient nous parler de son dernier livre, Errance amérindienne.
I'll be better off than I was before. I've got this life, I'll be around to grow. Who I was before, I cannot recall. Long nights aloud to feel I'm falling, I am falling. The lights go out. Let me feel I'm falling, I am falling safely to the ground.
Donc là, je suis au Salon du Tourisme avec dans mes mains un livre, Errance amérindienne, publié chez Transboréal par Philippe Sauve. Donc bonjour Philippe.
Bonjour, bonjour.
Alors Philippe, je vais peut-être commencer simplement par te demander une question hyper simple. Qui es-tu ?
Je suis Toulonnais, un ancien ouvrier de l'arsenal de Toulon. Parce que je suis né à Toulon, et quand on est né à Toulon, on a tendance à finir rapidement dans une usine à l'arsenal. Et donc, moi, j'ai pas voulu suivre ce chemin. Je me sentais pas à l'aise dans mon bleu de travail. Et donc, en 1992, j'ai décidé de démissionner au grand dam de ma famille et de partir sac à dos, effectuer un premier voyage, un tour du monde.
Mais comment est née cette idée ? Parce que quand on est dans le monde ouvrier, donc là, tu es à l'usine, tu as une vie plutôt bien réglée, on va dire. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu casser ça ?
Bien, déjà, j'avais eu la chance, à l'âge de 11 ans, de rencontrer une personne assez importante dans ma vie qui m'a fait pratiquer l'escalade, en fait. Et donc, je côtoyais les falaises de la région du sud de la France. Et j'ai eu la chance de rencontrer Patrick Edlinger, le fameux grimpeur blond aux cheveux longs qui vivait dans une caravane, qui mangeait des pâtes, qui était libre tous les jours. Et donc, moi, je le voyais évoluer comme ça, de cette manière-là. Et je sentais que, d'un autre côté, ma famille m'influençait pour avait tendance à vouloir me mettre un peu dans un moule, quoi. Et lorsque je suis arrivé à mes 18 ans, où j'ai dû faire des choix, eh bien, je voulais pas suivre ce chemin. J'avais été bien influencé par ce monde des grimpeurs. Et j'avais envie de vivre à ma façon la liberté.
Donc un premier voyage à l'âge de 18 ans, tu dis que tu es parti faire un tour du monde, tu avais un objectif en tête, c'était faire de la grimpe ou il y avait autre chose derrière ?
Non, la grimpe a disparu à ce moment-là, en fait. Je suis parti avec des idéaux, en fait, un idéal de vie. Je pensais à 18 ans que j'allais pouvoir vivre comme un ermite dans les bois, que j'allais pouvoir m'autosuffire dans des pays comme le Canada, l'Alaska. J'ai vite déchanté, parce que quand on est un citadin, on n'a pas les connaissances pour survivre grâce à la nature. Donc il m'a fallu apprendre pas mal de choses sur le terrain. Le voyage a commencé à Vancouver au Canada. Et là, je me suis retrouvé sur une autoroute à côté des véhicules, et j'ai compris que, en fait, j'étais pas un vrai ermite, que ma famille comptait. Et il a fallu que je me batte pendant les premiers mois où je pleurais carrément tous les jours de mon triste sort, en fait. Il a fallu que je me batte pendant les premiers mois pour trouver une raison de continuer le voyage. Et j'ai continué parce que beaucoup de gens m'avaient soutenu. Ils se retrouvaient un peu dans la démarche. Et j'ai continué. Le voyage a duré 2 ans. Et ça a marqué profondément mon avenir ensuite, parce que c'est une source d'inspiration encore aujourd'hui, 18 ans après.
Et donc tu n'es jamais retourné à Toulon dans le monde industriel ?
Non, bah, je crois qu'à chaque fois qu'on part en voyage, on se reconditionne assez vite au retour dans la vie citadine. Parce que quand je fais le calcul des années que j'ai passées sur la route, elles sont beaucoup moins importantes que les années que j'ai passées en tant que vrai citadin. Donc je suis quand même plus citadin. Mais les voyages que je fais, c'est comme des parenthèses fantastiques. Moi, j'aime bien employer ce terme. Je crée une rupture, je quitte le monde matérialiste, entre guillemets. Je suis quand même beaucoup en colère contre ça. Hein. Donc je quitte ce monde et j'ouvre une parenthèse. Et le voyage m'offre de vivre une autre vie pendant un certain temps. Alors j'essaye de faire durer ce temps. Le plus long voyage, c'était 2 ans. Mais j'ai traversé la Sibérie pendant 5 mois. J'ai descendu le Missouri pendant 4 mois. Et une parenthèse fantastique, fantastique, parce que lorsque vous voyagez, ben vous êtes confronté à d'autres repères, vous percevez le monde différemment.
Un peu comme un enfant qui réapprend une langue, des couleurs, des saveurs, qui a tout à réapprendre.
Ah, il y a tout à réapprendre. C'est vraiment, quand on parle des 5 sens, tous les sens sont en éveil. Étant donné qu'on n'est plus face au même repère, on se retrouve seul face à soi-même et on doit reconstruire avec les repères du voyage une autre façon d'appréhender la vie. Et je trouve que c'est des repères beaucoup plus, des bases plus saines. Parce qu'en plus, je m'orientais vers la nature. Les deux grosses leçons que j'ai pu recevoir de mes démarches, c'est qu'il faut croire en la bonté de l'homme et avoir confiance en la nature. Parce que la nature, c'est pas seulement la nature. Il y a une communication possible avec les éléments. Et quand vous vous immergez longtemps, ben, vous parlez à un fleuve, vous parlez à la forêt, vous parlez aux cailloux. J'en ai conclu que la religion du voyageur, c'était un peu la religion des peuples premiers. On devient animiste, en fait. On croit en l'esprit des objets qui vous entourent. Et d'ailleurs, en Sibérie, je parlais avec tous les ustensiles que j'ai emportés dans mon canoë. Voilà, c'est créer un autre univers et vivre autrement, quoi.
Donc, tu es parti à 18 ans avec première destination Vancouver. Est-ce que tu as travaillé pendant ces 2 années de voyage ou comment tu t'es débrouillé économiquement parlant ?
Non, j'ai pas travaillé. J'ai obtenu avant mon départ une bourse défi jeune de la jeunesse et sport qui m'a quand même aidé, mais après, 6 mois plus tard, parce qu'ils ont mis du temps à verser la somme. Mais ensuite, le but était de voyager sans le sou. Donc, par exemple, aux États-Unis, je me retrouvais à marcher d'une ville à une autre et j'allais dans des asiles de nuit. Donc avec les SDF de l'Est américain, j'allais dans les églises demander de l'aide de la part des prêtres, c'était moins évident. Et parfois j'allais carrément voir le commissariat en leur expliquant que j'avais besoin d'un toit pour la nuit. Et j'ai pu traverser pendant 7 mois les États-Unis réellement grâce à l'hospitalité et au système des villes.
Avec un budget de combien par jour à peu près ?
Oh, j'ai du mal à l'évaluer, mais disons que vraiment, j'utilisais peu d'argent. Hein. Peut-être que j'utilise $5 par jour, peut-être moins, parce que souvent on m'offrait de la nourriture. Par exemple, dans le Kansas, j'ai traversé le Kansas pendant 21 jours, et j'ai rencontré une première personne au début, une famille qui m'a hébergé. Mais quand je suis parti, que je les ai laissés, ils ont téléphoné à des amis qui vivaient 40 km plus loin, et ces amis m'attendaient dans la ville suivante. Et ça s'est passé pendant 21 jours. Et carrément, je voyais des gens arriver sur la route et me dire, avec des sandwichs pour me dire, bon, ce soir, vous dormez chez moi. Donc voilà, l'hospitalité des gens, ça fonctionne.
Donc, tu parlais du défi jeune. On va en revenir un petit peu sur cette bourse qui permet de financer des projets. Donc, il y a un projet derrière. Quel était ton projet, toi ? Tu as monté quoi comme dossier ?
Ben, je leur ai expliqué. J'ai encore du mal à penser qu'ils ont... Moi, je leur ai dit, je pars, mais je ne sais pas quand je reviens. Donc, ce n'était pas évident quand même d'obtenir une bourse sur ce thème. Mais j'avais quand même construit l'idée que j'allais partir pour aller à la rencontre des peuples, que je voulais faire des documentaires, que j'essayais d'avoir une caméra pour filmer les Indiens Sioux, les Esquimaux, et que c'était un but de découverte du monde. Mais je crois qu'aujourd'hui, si je présentais encore de cette façon-là, si un jeune présentait de cette façon-là ce genre de projet, ça serait plus reçu.
On bended knee is no way to be free.
up an empty cup I ask silently. All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Closer or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Wind in my hair, I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappears. Late at night I hear the trees, they're singing with the dead. I find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me. Guarantee.
Bien, il fallait que je crée une rupture franche avec la France et mon milieu de travail, avec ma famille. Donc j'ai pas commencé mon périple de mon pays. J'ai pris un avion un peu au hasard direction Vancouver parce que je savais que j'allais être dépaysé complètement. Et ensuite à Vancouver, je me suis dit bon, je fais les États-Unis déjà à pied. Et lorsque j'ai terminé cette traversée, je me suis retrouvé à Toronto au Québec, au Canada. Et là, je me suis retrouvé face au Canada. Et je me suis dit c'est une autre sorte d'expédition qui commence. Parce que le Canada, on ne peut pas le traverser à pied comme on peut le traverser, si, par le sud, mais moi, je voulais aller vers le nord. Et là, je me suis retrouvé à bord d'un canoë. Donc, je me suis dit, j'ai compris à ce moment-là que chaque pays allait être différent dans le mode de progression. Et j'ai ensuite traversé le Canada, pas d'est en ouest, mais presque, pendant 6 mois de navigation, jusqu'à rejoindre l'Arctique. Et là, encore grâce à l'hospitalité des gens, j'ai pu séjourner un hiver chez les Inuits. Et je me suis retrouvé face à l'Alaska. Et l'Alaska, je voulais passer un échelon au-dessus. Je me suis dit, pour que ça soit encore plus difficile, je vais essayer de traverser l'Alaska en hiver. Et donc, je me suis retrouvé habillé comme un Esquimau, avec un parka en fourrure d'ours noir, des bottes en peau de phoque. Et j'ai tiré un traîneau pendant 2 mois et demi pour traverser l'Alaska. Et je suis parti en février, donc on peut imaginer qu'il faisait froid.
Avant, tu parlais de créer une rupture, vivre la rupture avec ce que tu vivais chez toi en France, à Toulon. Donc tu as choisi de partir pour sortir et un peu casser le carcan familial, vivre ta vie, goûter à cette liberté. Tu parlais aussi du système matérialiste et capitaliste qui apparemment n'était pas des plus chers. Alors pourquoi avoir choisi finalement un pays développé ? Tu aurais pu partir en Afrique ou en Asie, dans les pays en développement, où là la rupture est peut-être encore plus grande.
Oui, c'est vrai, mais je pense que j'appréhendais un peu des pays où il y a beaucoup de monde, comme l'Asie, l'Inde... Et puis d'un autre côté, peut-être que c'était un premier pas dans un pays qui me ressemblait un petit peu. Mais c'est vrai que de tous les voyages que je fais, c'est vraiment cette chose qui me pousse à partir. On est dans une voie de progrès, pas spirituel. Et les gens se perdent dans ça, quoi. On essaie de nous mettre dans un moule. Et donc c'est vraiment la cause première de mes départs. Et ensuite, lorsque je suis arrivé quand même dans le Grand Nord canadien, j'ai pu côtoyer des Indiens. Et là, j'ai senti que la vie était un peu différente, était moins occidentale qu'au plein centre des États-Unis. Ensuite, je suis allé aussi dans le Grand Nord sibérien. Donc j'ai rencontré des Yakoutes. Je suis allé dans la République de Saka, où là, les gens sont coupés du monde quand même. Ils redeviennent nomades. Dans les forêts, dans la taïga, et là ça m'a permis de découvrir ce que j'étais un peu venu chercher, quoi.
Ton histoire fait un peu penser à celle du film de Champagne, Into the Wild, où c'est pareil, hein, c'est ce retour vers la nature, retrouver cette connexion, ce lien qui nous unit à la nature.
Have no fear for when I'm alone, I'll be better off than I was before. I've got this life, I'll be around to grow who I was before. I cannot recall long nights allow me to feel I'm falling, I am falling, the lights go out. Let me feel I'm falling, I am falling safely to the ground. I'll take this hold that's inside me now, like a brand new friend, I'll forever know. I've got this life and the will to show I will always be better than before. Long nights allow me to feel I'm falling, I am falling, the lights go. I'm falling, I am falling safely to the ground.
Oui, c'est vrai que quand j'ai vu le film est passé, ça m'a je suis allé voir, je suis resté estomaqué parce que Sean Penn a vraiment décrit les vraies choses du voyage d'une bonne manière. Et de plus, je crois que l'histoire de ce personnage s'est déroulée en 91 par là. Et moi, j'étais à peu près à la même époque. Après mon séjour chez les Inuits, je suis parti en Alaska, un peu comme lui. Il est parti en Alaska, son rêve était ça, sauf que lui, son histoire est mal terminée. Et j'ai vraiment une grosse difficulté en Alaska, j'ai failli y rester par le froid. Donc j'ai un peu, je fais beaucoup de parallèles avec cette aventure, et je me dis que lui, il a eu la malchance de rentrer dans l'histoire en y restant, mais moi j'ai eu la chance de pas rentrer dans l'histoire, mais de rentrer chez moi. C'est un peu la conclusion que je fais de ce parallèle, quoi.
Il y a une phrase dans le film sur la fin qui m'a marqué, une phrase de Tolstoï qui disait que le bonheur n'est réel que s'il n'est partagé. Et toi, dans tes voyages, j'ai l'impression que tu as souvent vécu solo.
Oui, c'est vrai, c'est important le partage. Mais je sais que j'aime aussi les moments de solitude parce que je pense honnêtement qu'on peut pas bien partager avec l'autre si on n'est pas soi-même en phase. Et pour être en phase, je pense qu'on a besoin d'être un peu solitaire au début pour apprendre à se connaître, pour connaître ses capacités, ce qu'on a à dire. Et je pense que c'est une phase importante pour ensuite aller vers les autres et partager quelque chose de vrai, d'essentiel.
Mais toi, traverser des contrées pratiquement désertes ou inhabitées, sans présence de vie humaine, n'est pas quelque chose qui t'a effrayé, qui t'a fait peur ?
Non, parce que je suis réellement attiré par la nature. Je vois, par exemple, quand j'ai traversé la Sibérie, j'étais porté par un fleuve qui s'appelle la Léna. Et pour moi, la Léna, c'était un fleuve féminin. J'avais l'impression de vivre une relation presque amoureuse avec ce fleuve. Et donc, j'avais confiance aveuglément en la nature, et quand elle me brutalisait, qu'elle me mettait dans des états pas possibles, j'acceptais, je me disais c'est une leçon que je dois apprendre, parce que je savais qu'elle ne me trahissait jamais, puisque après l'épreuve difficile, il y avait un fleuve qui devenait complètement d'huile, un moment parfait, et j'ai vite compris qu'il fallait passer au travers de ces difficultés pour ensuite connaître la plénitude. Maintenant, c'est vrai que quand on s'engage seul dans un périple en Sibérie, on peut être amené à l'accident bête, à celui qui va vous faire trébucher et vous couper la jambe. Vous allez voir un bateau au large, vous allez perdre tout votre sang et mourir sur la berge bêtement. Moi, c'est ce que je redoute le plus dans ce cas de voyage. Mais bon, ça nous apprend à être prudent.
Est-ce que tu as frôlé justement, tu as flirté avec la mort dans tes voyages?
Ben, je pense qu'elle est passée pas loin parfois, mais lors de tempêtes, par exemple dans certaines traversées du fleuve où j'aurais pu me noyer, ou une fois j'ai été poursuivi par un ours. Mais bon non, je pense que j'ai appris à fuir et à sentir les mauvaises situations où il faut pas rester quoi.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour fuir un ours qui nous court derrière? Comment faire pour échapper?
On dit qu'il faut pas courir. Donc, mais je défie celui qui va rester debout devant l'ours en train de charger. On dit qu'il faut pas grimper aux arbres parce qu'il grimpe aux arbres. Donc il y a des règles à respecter quand même au camp. Il faut pas manger au camp où on va dormir. Il faut installer sa nourriture sur un arbre à 200 mètres.
À 18 ans, tu es parti. Est-ce que tu savais déjà, tu avais déjà dans la tête l'idée d'écrire un livre à ton retour?
Non, j'étais pas du tout. J'ai été très mauvais élève, donc j'avais des très mauvaises notes en français, donc j'imaginais pas du tout être capable d'écrire un livre. Sauf que c'est les gens qui m'ont dit, bah, t'as fait un grand voyage, à ton retour, ce serait bien d'écrire un bouquin. L'idée est venue comme ça. Et ensuite, moi-même, j'ai découvert dans mes premières journées, dans mes premiers mois de voyage, que l'écriture pouvait être un moyen d'extérioriser les peines que j'avais, comme je l'expliquais tout à l'heure, de le mettre sur papier. C'était une façon de les sortir de moi et de ne plus les avoir à les porter, puisqu'ils étaient maintenant posés sur une feuille. Et j'ai découvert l'art sacré de l'écriture, en fait, extérioriser les impressions de l'âme, en fait, je dis souvent ça. Et du coup, ben, je me suis mis à écrire des journaux de bord, et au bout du compte, j'ai écrit pas mal de bouquins, puisque j'en suis à mon 7e. Et de faire sentir au lecteur ce genre d'émotion, c'est quelque chose de très bon. Et ensuite, il y a le partage que j'aime faire à travers un livre, parce que c'est pas une leçon de morale, c'est montrer un exemple de situation où les gens peuvent se reconnaître et se dire, bah, si lui il a fait ça, si lui c'est quelqu'un d'ordinaire, et bien s'il a fait ça, bah, ça peut réveiller chez les autres l'envie de le faire aussi.
Donc là, on a avec nous un bouquin, Errance amérindienne, c'est le dernier?
Oui, il est fraîchement sorti de l'imprimeur. Il sent encore l'encre, là, normalement. Donc il est sorti aux éditions Transboréales. Et c'est un livre un peu particulier, qui change un peu de mes autres récits.
Alors, avant de s'intéresser au contenu de ce livre, comment la rencontre s'est faite avec Transboréales?
Bien, j'ai eu la chance de rencontrer Émeric Fissé, le fondateur de Transboréales, lors d'un salon du livre à Vernon. Et donc lui avait déjà traversé l'Alaska à pied, moi j'avais fait mon tour du monde, et donc des liens se sont créés assez rapidement. Mais on n'a pas publié de livre entre temps, j'ai été chez les presses de la Renaissance. Et ce livre, je l'ai écrit en 2000, sous les avis d'un directeur littéraire des éditions Grasset, qui s'appelait Yves Berger, et qui voulait publier ce bouquin, sauf que quelques temps avant la finalisation de ce projet, il est décédé. Donc j'ai perdu tous mes contacts chez Grasset. Et puis il est resté dans un placard, et puis il est ressorti, et il sort au bon moment chez Transboréales. Et j'aime beaucoup Émeric Fissé, parce que c'est réellement, j'ai trouvé un terme pour lui, c'est un chirurgien de la littérature, il décortique tous les mots. Alors il fait pas des corrections, il change pas les textes, mais il améliore la solidité du texte proposé. C'est vraiment quelqu'un de très pointu.
Donc Errance amérindienne, je l'ai dans les mains, Philippe Sauve, donc je lis juste ce qui est écrit derrière. Pour se libérer de sa dépendance à la drogue, Philippe Sauve quitte son midi natal. Tu peux me parler de cette dépendance?
Oui, ben en fait c'est là où le thème du livre est un peu différent de mes précédents. C'est que, effectivement, je crois que lorsque l'on décide de choisir un chemin comme ça, de l'écriture ou du voyage, c'est pas forcément facile parce qu'il n'y a pas de statut type dans ce milieu, dans ce travail. Donc, j'ai eu des moments très de déprime et j'ai eu la malchance de rencontrer des gens qui étaient dépendants d'héroïne, des toxicomanes, bon, qui étaient, dont un qui est devenu un ami très cher. Et en voulant essayer de l'aider à se sortir de cette dépendance, ben, j'ai moi-même flirté avec l'héroïne. J'ai essayé quelquefois ce produit. Et vu que je n'arrivais pas à l'aider en France, j'ai décidé de refaire un voyage, spécialement pour m'offrir une sorte de cure de désintoxication, pour me libérer complètement de cette envie de consommer ce genre de produit.
C'était à 18 ans, ça? C'était avant le premier voyage ou c'est venu plus tard?
Non, c'était en 2000. Donc, et j'ai pas pu partir avec cet ami parce que lui-même était trop dépendant. Donc je suis parti tout seul en lui laissant un mot sur la table. C'est quelqu'un que je voyais tous les jours, quoi. Je lui ai laissé un mot, j'ai pris un billet au hasard et j'ai atterri à la Nouvelle-Orléans où là a commencé un voyage sans but, parce que sans but précis de géographique, parce que le but c'était une cure. C'était pas découvrir un pays, c'était plutôt me servir du voyage pour me libérer.
Donc le voyage peut être curatif ou thérapeutique.
Ah oui, pour moi c'est vraiment le voyage. Je crois qu'on a aurait tous besoin de faire ce genre de périple, partir un mois sans but pour... Parce que ce livre évoque la dépendance à l'héroïne. C'est une dépendance qu'on va dire extrême. Mais il veut dire aussi qu'on a tous des dépendances. Et quand je disais partager mon expérience, je pense que les gens vont se dire, bah, lui il est dépendant de l'héroïne, mais moi je suis dépendant de la télé. Et peut-être que de partir un mois, ça pourrait me libérer de cette dépendance, de cette apathie que je vis chaque soir devant mon écran de télévision. Donc voilà, c'était assez... Je suis parti d'une dépendance extrême, mais c'est pour montrer que chaque dépendance doit être libérée, quoi.
Comment toi tu vis le voyage et la spiritualité ?
Bon, je pense que chaque voyage, c'est une façon de vivre une autre forme de spiritualité, je pense. Après, ce que je crois, c'est que lorsque l'on part, il faut essayer de voir le monde sous un autre angle. Essayer de capter ce qui se passe à l'extérieur. Par exemple, dans ce périple-là, un mot qui pouvait être écrit par un tagueur sur un mur pouvait prendre une ampleur très importante parce qu'il était connecté avec une réflexion que je me faisais à ce moment-là. Donc j'ai essayé d'observer les signes. Et ce qui m'a troublé, c'est que dans l'observation de ces signes, j'en venais à des réflexions presque, entre guillemets, religieuses, post-spirituelles, quoi. Alors que rien au début ne me prédisposait à cette quête spirituelle, à cette recherche d'identité religieuse, parce que je me considérais au début athée. Donc je pense que quiconque s'en va par créer cette rupture, vit ce voyage en observant les signes de la vie simple, finit par avoir une révélation divine, entre guillemets, pour aborder l'aspect religieux.
Donc tu as la foi ?
J'ai la foi en la magie du voyage, en la rencontre avec les gens. Et pour ma part, pour en donner un peu plus de détails, je pense qu'il faut puiser dans toutes les religions qui existent sa propre religion. Et je pense que c'est au cœur de la nature, dans le temple de la nature, que peut se révéler la foi suprême, en fait. Parce qu'il faut pas, je pense que le temple de l'homme, c'est la nature.
Comment tu définirais cette foi suprême ?
Je pense que pour moi, c'est, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'unification dans le tout. C'est cette sensation de, comme j'ai pu vivre dans des instants très fragiles lors de mes expéditions, c'est l'impression d'être connecté avec tous les éléments de la nature, quoi. L'impression qu'à un moment donné, tout est ordonné d'une façon qu'il y a, comme si quelqu'un vous avait installé là dans un centre.
Un peu comme une interdépendance de tous les êtres vivants de la biosphère, une interconnexion entre tout ce qui nous environne.
Oui, voilà, c'est un peu cette perception-là qu'on arrive à attraper par des bribes de vision. Mais comme je le dis, je suis quand même, comme tout le monde, un citadin ordinaire. Donc je ne suis pas un moine bouddhiste qui médite depuis des années au sommet de sa montagne. Donc j'ai un gros effort déjà de me libérer des dépendances pour en arriver à toucher un petit peu ça, quoi.
Tu es parti à 18 ans, tu en as aujourd'hui 38, et maintenant ?
Et maintenant, je suis papa d'un petit garçon, et du coup, ça, c'est une autre aventure. Et en fait, il me montre que, j'écrivais là-dessus un peu hier, et il me montre, le fait d'avoir un enfant d'un an, me montre quand même que, bon, j'ai vieilli, ce qui est normal, mais que je me suis aussi figé dans une certaine posture d'observation de la vie. Et il me permet de rajeunir un petit peu. Il me permet de revenir à mes 20 ans, à ces idéaux purs que j'avais. Donc je suis content de vivre cette aventure, c'est un autre périple.
Philippe, merci.
Merci pour cette discussion. Merci.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher,
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.